En direct de Washington, édition spéciale du Monde aujourd'hui avec Eric Manirakis.
Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de VOA Afrique, jour historique aux États-Unis. La nouvelle administration, l'administration Biden, a pris ses fonctions.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I will bear true faith and allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
That I take this obligation freely.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
That I will well and faithfully discharge.
That I will well and faithfully discharge.
The duties of the office on which I am about to enter.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help God.
Voilà, Joe Biden et Kamala Harris ont prêté serment peu avant midi au Capitole devant le vice-président sortant Mike Pence, les ex-vice-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais en l'absence de Donald Trump. Le démocrate a été investi 46e président des États-Unis, Azuma Compaoré. Vous êtes là, vous avez suivi cette cérémonie. Bonsoir.
Oui, bonsoir Eric. Comment vous allez?
Ça va très bien. C'était donc une cérémonie sans précédent, marquée par la pandémie et l'assaut meurtrier du Capitole. C'était le 6 janvier par des partisans du président Donald Trump.
Tout à fait, Eric. C'est une journée historique qui a culminé à midi avec l'investiture officielle du 46e président des États-Unis, vous l'avez dit. Alors, un peu plus tôt dans la matinée, Joe Biden a assisté un service religieux à la cathédrale Saint-Mathieu avant d'arriver au Capitole pour la cérémonie proprement dite. C'est sa vice-présidente Kamala Harris qui a ouvert le bal, devenant ainsi la première femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Puis, après elle, main gauche sur la Bible familiale, main droite levée, debout face au président de la Cour suprême, John Roberts. L'ancien vice-président de Barack Obama a sacrifié à la tradition en prononçant la formule consacrée comme l'ont fait avant lui George W. Bush ou John Kennedy. Joe Biden, costume sombre et cravate de ciel, a par la suite prononcé son premier discours en tant que président des États-Unis. Et puis, Eric, il faut aussi noter, vous l'avez aussi mentionné, hein, l'absence depuis du président sortant Donald Trump, qui n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur, son vice-président Mike Pence, lui, était bel et bien présent. Et la cérémonie s'est tenue sans une foule et dans une ville fortement gardée, le public ayant été fortement encouragé à rester à la maison et à suivre les festivités inaugurales en ligne. Près de 200 000 drapeaux ont été plantés pour représenter ce public absent. Et quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers sont venus de tout le pays pour renforcer la sécurité. Et Eric, comme vous le constatez, il fait absolument froid ici. Et il y a beaucoup de vent. Et il n'y a que les journalistes et les drapeaux qui sont présentement sur cette esplanade du National Mall.
La cérémonie au Capitole est finie depuis quelques temps, n'est-ce pas?
Tout à fait, la cérémonie s'est terminée et maintenant, ce qui va se passer là pour le reste de la journée, donc dans l'après-midi, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour y déposer justement une gerbe en l'honneur du soldat inconnu. Et puis, en compagnie des anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, en retour, ce convoi doit s'arrêter à quelques dizaines de mètres de la Maison-Blanche pour y laisser Joe Biden y rentrer à pied, entouré d'une escorte militaire. En fait, Joe Biden et Kamala Harris auront une escorte présidentielle de la 15e rue à la Maison-Blanche et seront accompagnés aussi par les orchestres des universités du Delaware et de l'université Howard, venus supporter leur alma mater du nouveau président donc, et de la vice-présidente. Biden tirera ensuite ses tout premiers décrets présidentiels et puis plus tard dans la soirée à 20h30.
Merci à Arzuma Compaoré. Merci Arzuma pour toutes ces précisions. Je signale que vous étiez au Capitole. Abdourahman Dia est en ligne avec moi. Abdou, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Oui, vous vous êtes déplacé, vous êtes toujours au même endroit?
Oui, je me suis déplacé un peu, mais pas très loin. Je suis quelque part dans la rue qu'on appelle Indépendance Avenue, qui mène en fait vers la Voix de l'Amérique, un peu vers le Capitole. Et j'ai pu rencontrer quand même quelques personnes qui ont de loin observé ou en tout cas suivi la cérémonie. Il y avait les barricades, donc ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et il y avait un jeune Africain-Américain d'une trentaine d'années qui était avec sa fille de 5 ans. Il m'a dit qu'il en fait, viennent voir, même si c'est de loin, il a pu voir les drapeaux sur le National Mall, les 200 000 drapeaux dont parlait tout à l'heure Arzuma, et qu'il entendait dans la musique, ça lui suffisait. Il a vu beaucoup de journalistes, en fait. Donc, lui voir des mots de la question de l'influence à vue,
Abdourahman, l'agenda est bien rempli. Il y a des décisions qu'il va prendre immédiatement.
Oui, oui, son entourage annonce 17 décrets qu'il va signer aujourd'hui quand il va arriver à Maison-Blanche. Donc, on va retenir essentiellement des décrets sur l'immigration. Il entend demander au Congrès de trouver un moyen de régulariser définitivement ces dreamers, ces jeunes qui sont arrivés avec leurs parents alors qu'ils étaient très jeunes. Il espère trouver une issue définitive à cette question. Il y a également le fameux travel ban que son prédécesseur Donald Trump avait instauré visant certains pays à majorité musulmane. Il va également lever donc cette mesure et que très rapidement les ambassades dans ces pays concernés vont pouvoir à nouveau redémarrer les procédures de demande de visa. Il y a aussi l'accord de Paris sur le climat que les États-Unis vont réintégrer avec sa signature. Donc, mais il y a tout un processus, bien sûr, disons, il faut que le Congrès soit inclus, mais au moins il va signer le décret avec l'intention pour les États-Unis de revenir à l'accord de Paris sur le climat. Donc, il y a également d'autres sujets comme le Covid qui vont également être concernés, la lutte contre le Covid, l'appui économique, financier pour les populations concernant le Covid également. Donc, toute une série de mesures qui sont attendues dès son arrivée à la Maison-Blanche.
Merci Abdourahman Dia pour toutes ces précisions. Le nouveau président Joe Biden, le nouveau président nouvellement investi donc des États-Unis, s'est adressé aux Américains après son serment. Bagasikoura, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Quelles sont les grandes lignes de son discours inaugural?
Alors, Eric, comme il fallait s'y attendre, Biden s'est beaucoup appesanti sur le thème de l'unité nationale. Biden qui prend donc le pouvoir dans un contexte particulier marqué par la contestation de sa victoire et des manifestations violentes contre le Congrès le 6 janvier, a commencé par saluer un jour de l'Amérique et le jour de la démocratie. On l'écoute.
Today, we celebrate the triumph not of a candidate.
Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause, la cause de la démocratie, du peuple. La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été écoutée. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. À cette heure-ci, mes amis, la démocratie a prévalu. Désormais, sur ce terrain sacré où nous nous tenons, il y a à peine quelques jours, la violence a cherché à ébranler les fondements même de la capitale. Nous nous réunissions comme une seule nation sous Dieu, indivisible, pour effectuer le transfert pacifique du pouvoir, comme nous l'avons fait pendant plus de deux siècles, alors que nous regardons vers l'avenir d'une manière uniquement américaine, actif, audacieux, optimiste et tourné vers la nation que nous savons que nous pouvons être et que nous devons être.
And set our sights on the nation we know we can be and we must be.
Joe Biden, donc, qui insiste sur le thème de l'unité nationale. Aujourd'hui, recommençons à nous écouter entre nous, respectons-nous les uns des autres, voyons-nous, chaque désaccord ne doit pas être une cause pour la guerre totale, a-t-il notamment martelé. Le nouveau chef de la Maison Blanche a aussi évoqué la pandémie qui, a-t-il dit, a tué en un an plus d'Américains que le nombre d'Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a invité ses compatriotes à mettre de côté la politique et faire un front commun face à cette pandémie. Et Biden de demander une minute de silence pour les victimes du COVID-19. Biden a aussi promis de vaincre la suprématie blanche et le suprémacisme blanc, pardon, et le terrorisme intérieur. Et à l'endroit du reste du monde, il a souligné le retour de Washington dans le leadership international. Nous allons diriger non pas par l'exemple de notre force, mais par la force de notre exemple, Erika.
Merci, Bagasikoura, pour toutes ces précisions. De nombreuses personnes ici aux États-Unis ont suivi virtuellement cette cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Yacouba Ouédraogo a joint à Atlanta Ismaël Diallo, qui est à Atlanta. Il est burkinabé.
Oui, mais la première réaction est une réaction de soulagement pour beaucoup d'Américains et beaucoup d'autres, des millions d'autres personnes à travers le monde, parce que ce serait comme une sorte de retour à la normalité du point de vue comportement du chef de la Maison-Blanche. L'arrivée de Biden aujourd'hui, après 4 années de Trump, est une rupture, en ce sens que Trump a mis à jour et sur le devant de la scène le fondement, la nature intrinsèque du pouvoir et de la politique aux États-Unis, fondée sur la suprématie blanche. Utiliser cette expression suprématie blanche peut paraître exagéré et j'entends beaucoup de personnes éviter soigneusement cette expression. Et pourtant, c'est la simple réalité. Comme on dit en anglais, this is the naked truth of American history. Et aujourd'hui, les Américains sont obligés de le reconnaître.
Les Américains sont divisés, et vous l'avez dit, cela est apparu au grand jour. Donald Trump a quitté la Maison Blanche sans attendre son successeur. Est-ce que Biden va réussir le pari de l'Amérique unie comme il le lance dans son discours?
Il va tenter de le faire. Réussira-t-il? Je doute qu'il réussisse en 4 ans. Surtout que Trump va continuer d'alimenter négativement, insidieusement, publiquement même, sa base.
L'autre défi urgent, c'est la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. La plupart des Américains ont longtemps accusé Donald Trump de laxisme. Est-ce que vous pensez que Biden puisse relever également ce défi-là?
Il va mettre tout ce qu'il peut dans la dent. Il va recruter tout le personnel médical disponible. Il va faire former des gens rapidement, vacciner le maximum d'Américains qui voudraient être vaccinés le plus rapidement possible. Il s'est promis de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Cela fait 1 million par jour. Ce n'est pas impossible. Mais pourra-t-il le faire? Il faudrait qu'il y ait d'abord assez de vaccins, ce qui ne semble pas être le cas.
Parlons de politique extérieure, on sait que l'Europe, la plupart des dirigeants européens saluent cette arrivée de Biden au pouvoir. La politique américaine de l'Afrique va changer avec Biden radicalement par rapport à ce que faisait Trump.
Là également, je me sens obligé de tempérer les espérances. Il ne faut pas se faire dire. La politique américaine n'a presque jamais évolué, changé vis-à-vis de l'Afrique. Presque jamais. Il y a eu quelques petits écarts, quelques petites différences, mais pas beaucoup. Et d'ailleurs, si l'on fait un examen assez minutieux des politiques des différents chefs d'État, on remarquera que les présidents républicains ont fait mieux que les présidents démocrates en Afrique, dans les faits, pas dans le discours. Oui, dans le discours, les présidents démocrates ont été lumineux, mais dans les faits, un Bush, par exemple, a fait mieux qu'un Barack Obama.
Ismaël Diallo à Atlanta. John Lydon a joint Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri, qui s'exprime sur la question raciale aux États-Unis.
Bon, en tout premier lieu, Joe Biden peut adopter, disons, un discours beaucoup plus souple que son prédécesseur. Vous avez vu aujourd'hui qu'il a parlé d'unir le pays. Le prédécesseur de Joe Biden avait vraiment un discours qui divise. Donc, Joe Biden peut donner le ton. Le ton doit changer. Et avec un changement de ton, peut-être on aura une certaine amélioration sur les questions raciales.
Que dire finalement de ce parcours atypique de Joe Biden jusqu'au sommet de l'État?
Bon, on peut dire que Joe Biden est un homme qui a beaucoup de persévérance. Je me souviens vraiment, il y a peut-être plus de 30 ans, qu'il avait posé sa candidature. Et ça a terminé en queue de poisson. Et puis, plus de 30 ans plus tard, il est revenu. Et maintenant, il est président des États-Unis. Donc, c'est vraiment une preuve de sa persévérance, de son courage, de ne jamais abandonner, quoi.
Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri. John Lydon a également joint à New York Bakary Tandja, militant des droits des immigrants. Et l'immigration, c'est l'un des dossiers qui attend le président nouvellement investi, Joe Biden. Suivez.
Absolument, parce que l'immigration était l'un des piliers de sa campagne. Bon, particulièrement les Dreamers, ce qui est sûr et certain, leur problème, ils sont totalement sécurisés. Bon, non seulement eux, Joe Biden a promis d'introduire la loi sur la réforme de l'immigration pour permettre aux 11 millions d'immigrants illégaux ici aux États-Unis d'être régularisés avec la possibilité d'avoir la citoyenneté dans 8 ans.
Alors, à propos de ces 11 ou 12 millions d'illégaux, Joe Biden ne peut pas signer un executive order. Il faudrait qu'il compose avec les républicains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont coopérer cette fois-ci?
Ils vont coopérer parce que ça, c'est un problème national reconnu par les démocrates et les républicains. Donc, compte tenu en tout cas de la nouvelle dynamique avec la nouvelle administration, les démocrates contrôlent les deux chambres et la présidence. Et qu'à ces niveaux-là, ils pourront réellement négocier, d'autant plus que dans le camp républicain, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui veulent que ce problème soit réglé, c'est devenu une sorte de cancer, parce que tant que on n'y fait pas face, ce n'est pas une barre de glace qui va fondre sous le soleil. Il faut l'attaquer, il faut le régler, et c'est l'occasion.
Et par rapport toujours à l'immigration, Donald Trump avait fait de la construction d'un mur son principal message de campagne. Joe Biden a dit qu'il ne va plus mettre un seul sou dans ce mur. Et on voit depuis quelques jours l'arrivée des migrants qui viennent d'Honduras. Comment Biden va-t-il se comporter face à ces arrivées-là?
Par rapport à cette situation, comme Joe Biden a fait l'a dit, son administration, c'est l'ouverture, c'est la réparation des relations sur le plan international, c'est projeter une nouvelle image des États-Unis. Bon, ça veut dire respecter les conventions internationales, les traités, se baser sur la loi et également prêter une attention particulière aux droits de l'homme. Bon, d'ailleurs, celui qui va être le nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui est très orienté sur les droits de l'homme. Donc, ils feront la part des choses pour apprécier la situation de ces personnes qui arrivent à la lumière des conventions internationales et des principes des droits de l'homme.
Bakary Tandja, militant des droits de l'homme, des droits des migrants. Il était au micro de John Linden.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition spéciale sur l'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris sur VOA Afrique.
En ligne, le professeur à la retraite Edgar Colly. Bonsoir. Professeur Edgar, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez?
5/5. Voilà, vous avez suivi le discours de Joe Biden. Quelle est votre analyse?
Alors, évidemment, Joe Biden, il fallait s'y attendre. C'est beaucoup appesanti sur cette notion d'unité, sur cette notion que nous sommes tous ensemble si nous voulons faire face à la pandémie, aux défis, n'est-ce pas, qui attendent les États-Unis. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il a essayé de tendre la main à tous ces gens-là qui ont voté pour Trump en leur disant, même si vous n'avez pas voté pour moi, écoutez ce que j'ai à vous dire. Donnez-moi une chance, parce que je serai le président de tous les Américains, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui ont voté contre. Et ensuite, il a ajouté, n'est-ce pas, une phrase très intéressante à mon avis, c'est quand il dit... En fin de compte, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi après m'avoir écouté, eh bien c'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas obligés d'être tout le temps d'accord, mais le fait de pouvoir dialoguer, ceci, n'est-ce pas, est très important pour recimenter la démocratie américaine qui a traversé des périodes troubles il y a 2 semaines et je dirais même depuis les élections du 3 novembre. Donc voilà fondamentalement le centre du discours de Joe Biden, l'unité et aussi cette possibilité ou ce désir d'écouter ceux qui ont voté pour son adversaire, en l'occurrence Donald Trump.
En quelques secondes, est-ce que la mise en œuvre sera facile pour lui?
Ah non, pas du tout, parce que nous avons vu, n'est-ce pas, il y a des clivages qui existent aujourd'hui. Mais en fait, cette volonté de vouloir essayer, n'est-ce pas, c'est déjà quelque chose de positif. Cela nous donne, n'est-ce pas, une image totalement différente de ce que nous avons vu pendant les 4 dernières années. Et en 4 ans, je crois que Joe Biden ne pourra pas, n'est-ce pas, réconcilier l'Amérique. Mais au moins, il aura, n'est-ce pas, le mérite d'avoir essayé ou d'avoir commencé quelque chose. Et maintenant... L'histoire nous dira jusqu'à quel point il aura réussi ou aura échoué, mais je crois que c'est très important, n'est-ce pas, cette main tendue à tous ces gens-là. On parle de 74 millions de personnes qui ont voté pour Trump. Tout le monde n'est pas confiné dans son coin, mais il y a vraiment une base solide et importante des électeurs de Donald Trump qui ne va pas bouger facilement.
L'histoire nous le dira. Nous avons effectivement un historien en ligne, Mohamed Mbodji, professeur d'histoire à Manhattan College. Que faut-il retenir en tant qu'historien, professeur?
C'est d'abord une sorte de continuité tout en ayant une rupture avec la tradition. Donc le protocole, la manière dont ça s'est passé, la prestation de serment, tout ça, c'est une vieille tradition. Mais en même temps, évidemment, c'était une cérémonie de rupture avec l'absence de Trump. Et c'est aussi une cérémonie de rupture avec l'absence de ce qu'on peut appeler une certaine émotion populaire, une certaine présence du peuple pour accueillir son nouveau président. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une sorte de mi-figue, mi-raisin dans cette continuité, dans ce passé, dans cette tradition. Et l'Amérique est un pays qui se veut toujours neuve, innovante, regardant dans le futur, mais qui en réalité est très attaché à son passé, à ce qu'on peut appeler disons le décorum du passé, la tradition, la manière dont les choses se déroulent et se passent. Et avec Biden, on ne va pas beaucoup changer. C'est quelqu'un qui aime se passer, qui aime ce décorum, qui lui-même a fait partie de cette élite politique donc à Washington pour quelque chose comme entre 30 et 40 ans. Donc ce n'est pas lui qui va changer. Par contre, ce qu'on peut noter, d'une part, c'est une diversité très large de ce qui l'entoure et de son cabinet, une ouverture qui est beaucoup plus importante, par exemple, que celle que Obama avait faite.
En cinq secondes.
Donc, il y a une sorte de message pour le futur. Cette jeunesse, et cette jeunesse non conventionnelle qui l'a amené à faire partie de cette cérémonie, augure d'un futur différent.
Merci, professeur Mohamed Mboudji. Nous avons des réactions au Burkina Faso, où l'événement a été bien suivi de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'investiture de Joe Biden à la Maison-Blanche et le départ de Donald Trump sont commentés dans les rues de la capitale burkinabé. Fousseni Soumaoro est un opérateur économique.
La quête de la démocratie est une quête permanente et que même ceux qui ont des centenaires de traditions dans cette démocratie ne sont pas à l'abri de certaines situations que nous vivons déjà en Afrique.
Est-ce que vous attendez, en tant qu'Africain, que le prochain président Joe Biden sera plus ouvert à l'Afrique que Donald Trump?
Pour moi, Donald Trump n'a pas été fermé à l'Afrique. Il a juste changé, je dirais, de façon de communiquer. Ses actions avaient le mérite d'être franches et direct, et à nos États de défendre leurs intérêts.
Abdulaziz Nikiema est pro-Biden.
C'est dommage, mais un homme d'accepter perdre, ça fait partie de la vie. Nous sommes déjà très contents que Joe Biden soit le futur président des États-Unis, parce que déjà, il en a fait beaucoup, il a traversé beaucoup de moments difficiles, et ça prouve que tout est permis dans la vie, tout est possible. Il est entouré de personnes quand même qui connaissent l'Afrique, donc je pense que tout ira bien pour l'Afrique.
Contrairement à Donald Trump qui avait traité les pays africains de merde.
Bon, Donald Trump, lui, c'est un businessman. En business, il n'y a pas de sentiment. On ne fait que du business, point.
Selon Émile Paré, l'Afrique n'a pas à attendre grand-chose de Joe Biden, qui est simplement le président élu par les Américains.
Selon moi, cela ne dit absolument rien. C'est les Américains qui l'ont élu. Ah bon, c'est les Américains qui vont servir.
Donald Trump n'a jamais accepté sa défaite.
Bon, Donald Trump, c'est Donald Trump. Bon, c'est sa personne. Il a géré l'Amérique comme sa société. Bon, voilà, il a payé le prix.
Vous pensez que l'Afrique a gagné avec ce prochain président, Joe Biden?
Bon, l'Afrique, est-ce que l'Afrique attend de lui? Rien, parce que c'est les Américains qui l'ont élu. Il va servir les Américains.
Le fait que Donald Trump n'assiste pas à l'investiture de son successeur jette un discrédit sur cette cérémonie. Mais au-delà, toute la démocratie du pays, pas rien, est analyste politique.
Et ce qui déjà donne une mauvaise image aux États-Unis, les États-Unis donc qui étaient présentés comme un modèle de démocratie à travers le monde. Si l'un des pays présentés comme modèle se comporte ainsi, je pense que cela pose problème. Cela ternit un peu l'image des États-Unis, ce pays là défenseur donc de la démocratie. On peut s'attendre à des troubles hein, après, pendant le premier mandat de Joe Biden, dans la mesure où les pro-Trump jusqu'à ce jour n'ont pas accepté la défaite de Donald Trump, ce qui voudrait dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il puisse avoir des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, des marches et tout, juste pour mettre des bâtons dans les roues du président nouvellement élu.
À Ouagadougou, comme un peu partout dans les différentes villes du pays, l'investiture de Joe Biden est un sujet bien débattu. Les Burkinabés devront désormais s'habituer à Joe Biden, le 46e président américain. Lamine Traoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
Merci à Lamine Traoré. C'est la fin du Monde aujourd'hui. Édition spéciale sur l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, et sa vice-présidente Kamala Harris. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute. Merci à Lionel Lunanela Gaïma qui a assuré la mise en onde. Eric Mandela Kiza était avec vous. Vous pouvez également nous suivre sur votre site voafrique.com et sur Facebook 24h sur 24. Le Monde aujourd'hui revient dans 30 minutes.